Le vendredi 3 mai, pour vous, Français qui vivez à l'étranger, c'est la date limite pour vous inscrire sur les listes électorales consulaires afin de pouvoir voter aux élections européennes de juin 2024. Ne tardez pas, rendez-vous sur service-public.fr.
Nous retrouvons la grande édition présentée par Didier Arnoux. Bonjour Didier.
Bonjour Mickaël, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, l'Assemblée de Corse qui en a fini avec son catenaccio institutionnel. Les écritures constitutionnelles ont été adoptées hier. Un texte en trois blocs avec quatre votes distincts. On y revient dans un instant. L'Assemblée qui doit se pencher sur les orientations budgétaires, aujourd'hui ça risque d'être animé. Nous parlerons aussi des dernières annonces du Premier ministre concernant l'assurance chômage. Gabriel Attal veut réduire la durée d'indemnisation pour remettre les demandeurs d'emploi sur le marché. Puis nous verrons aussi les atteintes à l'environnement, thème d'un séminaire de la justice à Bastia. Et comme tous les midis, vous avez rendez-vous avec l'actualité de la Méditerranée. Et on débute avec les suites de l'homicide de Moriani. Lundi matin, un homme de 38 ans avait été retrouvé, très grièvement blessé au cou. Il est décédé peu après à l'hôpital de Bastia. Un homme avait été placé en garde à vue. Il a été mis en examen et incarcéré. Il s'agit d'un étranger trentenaire en situation irrégulière qui n'est a priori pas connu pour des infractions, indique une source proche de l'enquête. Les circonstances du drame sont encore inconnues. Les enquêteurs devront déterminer s'il s'agit d'un règlement de compte ou d'un différent qui a mal tourné. De la politique, après le vote nocturne et au forceps des écritures constitutionnelles hier, on y revient dans un instant, les conseillers ont repris le chemin des bancs de l'Assemblée de Corse, une session qui doit examiner 16 rapports en tout, mais le gros morceau sera l'adoption du budget primitif, qui promet des débats incisifs entre la majorité et l'opposition. Sur place, en direct de l'Assemblée de Corse, on retrouve Paul Hort. Paul, est-ce qu'on est déjà entré dans le vif du sujet?
Pas encore, Didier. Les conseillers ont fait la grasse matinée après une nuit très courte en raison du vote sur l'autonomie. Et la séance a donc débuté avec une heure de retard par l'analyse du rapport sur la parité homme-femme présenté par la conseillère exécutive Lauda Guidicelli. Un rapport qui mentionne la persistance d'inégalités salariales, même si les marqueurs sont encourageants, comme dans la filière scientifique où les femmes corses se distinguent. La conseillère Fapopoulou-Insem, Anna-Maria Golombagne, a rebondi sur l'enquête inquiétante d'un rapport indiquant qu'une jeune femme corse sur deux est victime d'agression sexuelle, une sur cinq a été violée. Même inquiétude chez Julia Tiberi pour avancer, me rappelant le retour, dit-elle, d'idées rétrogrades sur le sujet. Elle a mentionné le vote contre l'inscription de l'IVG dans la Constitution du sénateur Panoudi. Alors, ce rapport a entraîné une prise d'acte consensuelle, mais la concorde d'hier s'apprête à voler en éclats par des positions houleuses sur le budget primitif, qui va être abordé dans quelques minutes. La droite, retrouvant son unité par la voix de Georges Méhl, a rappelé la dette de 1,1 milliard d'euros, avec l'écrasante part de fonctionnement qui pèse sur l'investissement territorial. C'est Xavier Lacombe pour une Sofiono qui aura la tâche de démontrer que l'investissement aujourd'hui est moins important qu'hier, lorsque les départements existaient. Bref, le conseiller exécutif Alex Vinciguerra est entré dans l'arène, prêt à en découdre et à défendre son budget primitif. En marge du rapport sur le développement durable, ce matin, le vote des taxes et des taux commence déjà à fracturer l'hémicycle.
On vous retrouvera, Paul, un petit peu plus tard. Hier, l'écriture constitutionnelle prévoyant un statut d'autonomie de la Corse au sein de la République a été adoptée à une large majorité par l'Assemblée de Corse, 13 élus sur 63 votant cependant contre l'octroi d'un pouvoir normatif local. Le texte composé de 6 alinéas a été soumis au vote en 3 parties sur la notion de communauté corse, la possibilité d'un pouvoir normatif octroyé aux élus insulaires et enfin l'idée de soumettre ce texte aux électeurs via une consultation populaire. C'est donc ce texte en 3 blocs qui a été adopté peu avant minuit à l'Assemblée. Les élus ont voté le rapport et la délibération concernant l'écriture constitutionnelle qui avait fait consensus entre le ministre de l'Intérieur et la délégation insulaire. Un vote à la découpe qui a fait l'objet de tractations tout au long d'une journée présentée comme symbolique avant le passage du texte entre les mains du président Macron et du Parlement, mais qui aura finalement vu la droite plus que jamais divisée et des discussions interminables sur la question du pouvoir législatif et le fait de lui dédier un alinéa afin de marquer l'opposition marquée incarné par Jean-Martin Mandoloni.
À partir du moment où le piège grossier met dans le même sac des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord, des choses non seulement sur lesquelles on est d'accord, mais compromis, on est bien obligé de voter contre. On est tombé d'accord sur l'article 1er qui est en gros le champ de la reconnaissance. Et ce n'est pas le moindre des efforts qu'on pouvait faire parce que c'est de la corsitude dont on parle. On est d'accord sur le fait qu'il faut consulter et on n'est pas d'accord sur le droit du pouvoir législatif.
Ce quatrième vote, il sert à quoi ?
À rien, sinon à considérer administrativement. Grand 1, à dire qu'on a bien reçu un texte. Grand 2, que ce texte a été mis en délibération et qu'il a été, selon les modalités de vote qu'on a retenues, bloc par bloc, adopté dans les termes des trois questions qui seront posées. Et troisièmement, qu'on va transmettre ce texte. Un vote absolument sans portée politique et uniquement administratif.
Au sortir de la session, le chef de file du groupe Avancem, Jean-Christophe Angelini, soulignait que l'accord politique réunissant les groupes nationalistes de la majorité et de l'opposition, ainsi que des élus d'autres tendances, résulte de plusieurs semaines de travaux entre les élus de l'Assemblée dans la diversité de leurs sensibilités. La délibération d'hier soir, qui n'est pas une base minimaliste, mais une matrice de revendications représentatives des aspirations des Corses, fait désormais foi, dit-il. Ce n'est pas la fin d'un processus, c'est au contraire le début d'un nouveau chantier, rappelait Jean-Christophe Angelini.
Est-ce qu'on est au terme d'une phase importante ? Oui. Est-ce qu'on est arrivé au bout du processus ? Non. Regardez les difficultés que nous avons. Si demain, et je le souhaite de toutes mes forces, la collectivité de Corse devenait une collectivité autonome, et qu'elle avait, je le veux de toutes mes forces, la capacité à légiférer et à réglementer. En étant enfermé ici, 24 heures sur 24, et en travaillant sans interruption dans l'intérêt de la Corse, il nous faudrait des années, il nous faudra, je l'espère, des années, pour absorber ce que nous sommes en train de demander au nom de l'histoire. Et ce n'est pas être pessimiste ou mitigé que de le rappeler. C'est, de notre point de vue, d'en appeler à une exigence de réalisme.
Les indépendantistes de Corinne Front notamment ont tenu à ne pas voir diviser la Corse, d'autant qu'à Paris, les résistances seront nombreuses. Paul Coissane rappelait que c'est bien la Corse qui devait avoir la main sur son avenir.
Alors c'est vrai que si ça ouvre la porte au statut de résident, pour moi, qu'on l'appelle statut de résident, qu'on l'appelle autorisation d'achat, qu'on l'appelle autorisation de vente, je m'en fous, hein. C'est la même chose, c'est exactement la même chose. Le tout, c'est de le retrouver. La deuxième partie, ça va être le passage à l'Assemblée nationale. C'est loin d'être gagné. Ça va être le passage devant le Sénat. C'est pas encore gagné, mais enfin, il faut être optimiste, on n'en sait rien. La troisième partie, ça va être la loi organique. Donc si on franchit ces trois obstacles, Sénat, Assemblée nationale, rédaction de la loi organique, qui ne va pas se faire en une semaine, bien entendu, qui va se faire thème par thème. Parce que tout ce qui n'a pas été fait en amont, le fait de ne pas avoir fait de calendrier, le fait de ne pas avoir listé des thèmes à étudier régulièrement pendant quelques mois, on va le retrouver au moment de la rédaction de la loi organique. Et c'est à nous de prendre l'initiative.
Un vote à la découpe qui a fait l'objet de tractations, on le sait, tout au long d'une journée qui a été présentée comme symbolique avant le passage du texte entre les mains du président Macron et du Parlement, mais qui aura finalement vu la droite donc plus que jamais divisée, des discussions interminables sur la question du pouvoir législatif. Quoi qu'il en soit, un pas a été fait et il faut continuer le travail, soulignait Jean-Félix Acquavive.
Au lieu d'avoir une écriture qui inclut d'emblée le pouvoir législatif, il a été fait des concessions pour que ça soit la loi organique qui clairement définisse un pouvoir législatif, ça c'est très clair. Il ne s'agit pas simplement d'avoir un accord avec le gouvernement, ça a été fait, il faut un accord avec le Parlement. Et cette concession permet aujourd'hui de dire qu'on tend les bras pour qu'on puisse comprendre ce que l'on veut à travers une loi organique. On fait le pari que le dialogue peut se poursuivre et qu'au-delà des cris d'orfraie du premier ténor de la droite sénatoriale, on puisse rentrer dans un débat plus versus raison que versus punchline sur les réseaux sociaux.
Alors, pour revenir sur l'ensemble du texte, celui que les élus de l'Assemblée de Corse ont voté, donc à une large majorité hier, un invité, le président de l'exécutif, Gilles Simeone, qui répond aux questions d'Hélène Battini.
Gilles Simeone, ce qui devait être une formalité après un petit peu plus de temps que prévu, un accouchement dans la douleur, mais finalement un texte dont vous êtes heureux.
Un accouchement qui a été difficile, mais le bébé est beau. Non, c'est vrai que ce soir, c'est un sentiment de satisfaction, même si nous avons tous conscience, et moi le premier, que beaucoup reste à faire. Convaincre, bien sûr, les parlementaires, députés et sénateurs, faire aboutir cette révision constitutionnelle, parallèlement travailler à la loi organique qui doit construire la mature de ce statut d'autonomie.
Ce n'est que le début, vous l'avez dit, tout au long de la journée.
Tout au long de la journée, mais c'est un début qui est indispensable, et quoi qu'il en soit, et y compris en ayant à l'esprit le travail considérable qui reste à accomplir ce soir, c'est un pas majeur qui est accompli, et un pas majeur qui était accompli, j'allais dire, dans des conditions de légitimité encore renforcées par rapport à la délibération du 5 juillet 2023, puisque ce soir, nous avons une délibération qui a été votée à l'unanimité, et concernant le contenu...
Moins une,
c'est vrai, Josefa Jagomé a voté contre, mais une délibération qui est votée donc à 62 voix sur 63, et puis un projet d'écriture constitutionnelle qui là aussi est voté à l'unanimité, moins une voix sur ses principes fondamentaux, et notamment cet article premier qui pose le principe d'un statut d'autonomie qui fixe la notion d'intérêt propre de la Corse.
Ça vous laisse le champ libre donc pour la loi organique. En revanche, les discussions portent essentiellement aujourd'hui sur le pouvoir législatif. Finalement, vous étiez pour un texte d'un bloc. Il y a eu une découpe, il y a eu trois sections différentes. Oui, mais... celle du milieu mêlant pouvoir législatif et d'adaptation. La droite a dû voter contre, bien que pour l'adaptation.
Oui, tout à fait, mais nous avons donc une unanimité, moins une voix, et sur les fondamentaux du statut d'autonomie, et sur le principe de la consultation des Corses, qui est quand même un élément décisif, parce que ça veut dire qu'in fine, c'est le peuple qui va décider et qui va trancher. Et puis, il y avait un débat, et tout le monde savait qu'il y avait un débat sur le pouvoir normatif, un accord unanime sur un pouvoir réglementaire d'adaptation, et une très large majorité en faveur d'un pouvoir législatif. Cette majorité, elle est renforcée aujourd'hui, puisque elle était, lors du vote du 5 juillet 2023 sur le principe d'un pouvoir législatif, de 46 voix. Elle est ce soir de 49 voix, avec également une abstention supplémentaire dans le cas de la droite. Donc là aussi, nous avons encore renforcé, élargi l'assise démocratique de cette demande. Et c'est bien l'intégralité du texte qui, à la demande unanime de l'Assemblée de Corse, moins une voix, doit servir de base à la révision constitutionnelle.
Les modalités de ce vote, donc en trois sections, pour vous, ils n'entament pas la puissance du message envoyé à Paris?
Au contraire, je pense même que...
Puisque ce n'était pas votre choix de départ.
Ce n'était pas le choix de départ, mais vous savez, comme on l'a fait... y compris depuis 6 mois, pour essayer, au prix assumé de concessions réciproques, de construire un équilibre le plus large possible. Nous avons écouté, personnellement j'étais au départ pour un vote sur l'intégralité du texte, dans la mesure où le vote unique était logique, puisqu'il y a un texte qui a une cohérence d'ensemble. Nous avons pris acte qu'il fallait, notamment pour permettre à la minorité d'exprimer sa vision sur le pouvoir législatif, nous sommes allés vers un vote autour de 3 blocs sans rien changer. Et ça a permis de constater que le travail qui a été mené depuis 6 mois a porté des fruits considérables, puisque ce soir nous avons une unanimité de l'Assemblée de Corse, moins une voix, sur l'article premier qui pose les fondamentaux du statut d'autonomie et de la communauté historique, linguistique, culturelle ayant un lien avec sa terre que nous demandons avoir reconnu par la Constitution. Nous avons également une unanimité sur le principe de la consultation référendaire, et enfin nous avons une majorité élargie qui inclut désormais des élus de droite pour demander un pouvoir législatif. Donc je pense que par rapport à ce que nous avons porté historiquement et ce que nous avons porté depuis le début du processus, ce soir c'est un pas considérable, un pas majeur, positif, même si nous avons conscience que beaucoup reste encore à faire.
Enfin, on a reparlé justement de ce qui reste à faire de cette loi organique. Vont se reposer les questions de quelles thématiques aborder, finalement des réunions thématiques qui n'ont pas eu lieu et de tout ce calendrier qu'il va falloir mettre en place.
Ça fait partie des attentes et des aspirations qui ont été exprimées, bien sûr, par les élus de l'Assemblée de Corse dans la diversité de leur appartenance politique, mais c'est aussi une demande très forte de la part des instances consultatives, le CESEC, la Chambre des territoires, l'Assemblée des Adjoints, et puis au-delà de la société corse tout entière, qui a envie de s'approprier complètement ce processus et qui a envie de contribuer maintenant à la construction du statut d'autonomie. Ça passe notamment effectivement par la loi organique, et nous allons proposer au gouvernement, au président de la République, une méthode qui nous permettra d'être dans une relation de travail beaucoup plus suivie, beaucoup plus soutenue, impliquant l'ensemble des acteurs sur cette loi organique. La meilleure et la plus forte des garanties qu'on peut donner, in fine, ce sera le peuple qui décidera.
Et à midi et demi, comme tous les jeudis, vous avez rendez-vous avec le club de la presse de RCFM, avec Hélène Batignier et les confrères de la presse insulaire, l'actualité analysée et commentée. L'actualité, c'est aussi ce nouveau tour de vis sur l'assurance chômage. Le Premier ministre, invité du journal de TF1 hier soir, a affirmé vouloir une nouvelle réforme globale de l'institution. Gabriel Attal a évoqué plusieurs pistes, de la réduction de la durée d'indemnisation à l'accélération de la dégressivité des indemnités ou encore des conditions d'accès durcies. La droite dénonce un enfumage, l'extrême droite évoque une mesure pour faire les poches des Français, unanimité partagée aussi à gauche et chez l'ensemble des syndicats. C'est donc une nouvelle réforme politiquement inflammable que le Premier ministre a dévoilée, celle de l'assurance chômage, déjà modifiée à deux reprises par le gouvernement. Gabriel Attal veut donc aller plus loin, durcir les conditions d'indemnisation. Les partenaires sociaux vont débattre de la question dans les prochaines semaines, Damien Mestre.
Le gouvernement veut aller vite et prévoit une adoption de la loi d'ici l'automne prochain. Mais avant cela, il va falloir négocier. Or, la CGT annonce déjà qu'elle ne participera pas aux échanges s'ils se font sur les bases évoquées par le gouvernement. De son côté, la CFE-CGC, le syndicat des cadres, dénonce, lui, un projet de loi scandaleux et populiste. Principale piste qui suscite leur inquiétude, réduire la période durant laquelle vous avez droit au chômage. Le gouvernement a déjà ramené cette durée de 24 à 18 mois, mais pourquoi pas envisager 14 voire 12, explique Gabriel Attal. Deux autres possibilités, modifier le temps qu'il faut avoir travaillé pour bénéficier de l'indemnité. Actuellement, vous pouvez être inscrit en tant que chômeur après 6 mois de travail sur les deux dernières années. Enfin, les discussions pourront également porté sur le montant de l'indemnisation.
Alors, autant de propositions qui choquent les syndicats, je le disais, surtout que deux précédentes réformes n'ont pas eu l'effet plein emploi escompté. Aujourd'hui, taper sur les chômeurs pour combler les déficits, c'est un scandale, affirme Marie-Jo Salvador, la secrétaire régionale adjointe de la CFDT.
C'est un véritable scandale, avec en Corse une acuité un peu particulière. Pourquoi ? Parce qu'en Corse, il y a la saisonnalité. Déjà, les conditions d'accès au chômage, c'est très particulier, parce que justement, suite à une des réformes, parce qu'il y en a eu plusieurs, il faut avoir 6 mois de cotisation. Donc, je vous laisse envisager ce que ça peut faire déjà ce type d'annonce en Corse. Ils présentent le chômage comme un choix. Le chômage n'est pas un choix. Regardez pourquoi ce plein emploi ne fonctionne pas. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, derrière tout ça, il y a des problèmes de formation. Donc, ils n'ont pas du tout été chercher ce qui se passait, une nouvelle formation. Il y a des problèmes de mobilité, il y a des problèmes de logement, il y a des problèmes de garde. Les gens, ils ne sont pas au chômage par choix. Et je trouve que, franchement, je vais le dire, c'est un scandale, quoi. On a l'impression que plus on est précaire, plus on est ponctionné. Donc, on lui dit, allez chercher des recettes ailleurs.
Le président du syndicat agricole majoritaire FNSEA a appelé Emmanuel Macron ce matin à exprimer sa vision pour l'agriculture sans plus attendre lors du 78e congrès annuel du syndicat à Dunkerque. Le président semble hésiter à prendre rendez-vous, celui qui nous avait promis au salon de l'agriculture, en estimant que la situation n'était pas mûre, a souligné Arnaud Rousseau. Qu'en est-il de l'ambition du chef de l'État? Le discours de 2017 de la montée en gamme a vécu, qu'il nous donne sa vision sans plus attendre, a-t-il ajouté. Le patron de la FNSEA a aussi appelé les agriculteurs et le gouvernement à reprendre la maîtrise de son administration afin de mettre plus rapidement en œuvre les mesures en faveur des agriculteurs. Les atteintes à l'environnement en hausse, plus 7% entre 2016 et 2021 au niveau national, soit plus de 31 000 délits constatés par les forces de l'ordre. En Corse, pas de chiffres aussi précis, mais des problématiques très bien identifiées, désormais priorisées avec la création d'un pôle régional environnement. C'était en 2021, Alexandre Sanguinetti.
Ce pôle régional rattaché au parquet de Bastia traite de nombreux dossiers dès qu'ils sont jugés suffisamment importants, des dossiers directement ou moins directement connectés aux sujets environnementaux. Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de Bastia.
On parle d'affaires essentiellement en matière de traitement des déchets, d'infractions en matière d'industrie ou de sites industriels classés. On parle aussi d'une manière générale de la protection de l'environnement au quotidien, qu'il s'agisse du traitement de l'eau, Mais il faudrait étendre au-delà aux questions de marché public, de probité et parfois aussi de connexions qui peuvent exister avec des milieux criminels.
Et l'activité sur ce type d'affaires est aussi en hausse en Corse, Jean-Philippe Navarre.
Il y a surtout une augmentation et une attention croissante des services de l'État et de l'autorité judiciaire qui conduit effectivement au développement de nouvelles enquêtes. Ça s'est manifesté avec la création du pôle aujourd'hui régional en matière d'environnement, l'affectation et la désignation de magistrats dédiés spécialisés sur cette matière.
La lutte contre les atteintes à l'environnement n'est pas nouvelle, mais elle prend désormais une autre ampleur. Jean-Jacques Fagny, procureur général près de la Cour d'appel de Bastia.
Il y a 10-15 ans en arrière, c'était déjà traité, il y avait déjà un certain nombre d'infractions. La législation, notamment sur les installations classées, existait déjà et il y avait une attention portée par l'autorité administrative et par l'autorité judiciaire. Aujourd'hui, on est véritablement dans une volonté de coordination et, je vous le disais, de stratégie.
Une stratégie qui doit aussi se développer en coopération avec nos voisins européens, pollution et trafiquants ne connaissant pas les frontières.
L'instruction sur le dossier financier de la bande criminelle du Petit Bar est close. 6 années d'investigation aux quatre coins du monde, Courchevel, Dubaï, Hong Kong, le Panama, sur des faits de blanchiment présumés portant sur des sommes évaluées à 48 millions d'euros. 24 personnes sont poursuivies, dont Jacques Santoni, Pascal Port et André Bacchioli, présentés comme étant les chefs du Petit Bar, mais aussi Anthony Perino. Les avocats peuvent désormais contester les poursuites et les actes d'enquête devant la Chambre de l'instruction. Un jeune homme de 19 ans interpellé à Malakoff, dans les Hauts-de-Seine, dans le cadre de l'enquête sur les attaques sur les espaces numériques de travail, ENT, reçu par de nombreux établissements scolaires depuis la semaine dernière. Il est soupçonné par les officiers de l'Office anti-cybercriminalité d'être à l'origine de plusieurs messages de menaces d'attentat sur ces ENT, avec également l'envoi d'une vidéo de décapitation. Le suspect aurait reconnu les faits. Presque 93 millions d'euros de dons, ce sont les chiffres du Téléthon, dévoilés ce matin par l'AFM. 2 millions de plus qu'en 2022. Il s'agit également de la meilleure collecte depuis 2015. En Corse, les dons s'élèvent à 475 570 euros. Depuis vendredi saint pour les chrétiens, autour des confréries, de nombreux catenaccio ont lieu. Le plus réputé, c'est celui de Sartène, bien sûr. Un événement qui attire chaque fois beaucoup de monde sur ce chemin de croix, mais que symbolise cette tradition ancienne? On en parle tout de suite dans Mare Ladino, reportage de Jérôme Sousigne avec François-Dominique de Perretti, le prieur de la Compagnia del Santissimo Sacramento.
C'est une procession paraliturgique qui a été introduite il y a quelques siècles. Je pense que la date précise, personne ne la connaît réellement. Qui a été introduite par des moines franciscains. On refait la passion, le chemin de croix du Christ. Il y a un pénitent rouge qui est censé effectivement représenter le Christ. Il y a un pénitent blanc qui est censé représenter Simon de Cyrène. Et il y a des pénitents noirs qui portent un baldaquin sous lequel se trouve un Christ gisant. Ce cortège donc est entouré par la confrérie du Saint-Sacrement, accompagné du prêtre et d'un père prédicateur. Nous parcourons donc la vieille ville.
Les pieds rouges de sang, il avance à pas lents, le porte-croix.
Que doit-on dire de ce pénitent rouge?
Le pénitent rouge est choisi par le prêtre. Il est anonyme, comme d'ailleurs les 9 autres pénitents, hein, sont choisis par le prêtre. Et le rouge est choisi au terme d'entretien que le prêtre a avec différentes personnes qui candidatent, qui souhaitent faire cette procession. Ils veulent manifester leur foi parce que ils ont commis peut-être des péchés importants. Chacun a ses motivations.
La tête sous la cagoule pour que ceux de la foule ne sache pas.
Le pénitent rouge porte une croix, effectivement, qui fait plus d'une trentaine de kilos et des chaînes qui peuvent atteindre jusqu'à 17 kilos, ça dépend. Il peut même se faire rajouter des chaînes s'il le souhaite. Il y a le premier niveau de lecture, c'est « on refait la passion du Christ ». Il y a des gens qui viennent rechercher ce niveau spectaculaire. Vous avez un niveau de lecture qui consiste à dire « le rouge et le blanc qui sont devant, c'est le Nouveau Testament ». Et les noirs qui sont derrière, c'est l'Ancien Testament. Vous en avez encore d'autres de niveau de lecture. Vous pouvez considérer que cet homme symbolise aussi tous les malheurs de ce monde. C'est un peu quelqu'un qui porte la souffrance. La foule implore le pardon et la miséricorde.
Voilà pour cette édition. Il est 12h et pratiquement 25 minutes. Retour de l'actualité insulaire. RCFM, la radio, c'est à 16h. L'info, c'est quand vous voulez. Sur Bleu RCFM et nos réseaux sociaux, X et Facebook, à 12h30, vous avez rendez-vous avec Hélène Battini pour le club de la presse de RCFM.